Je crois que bah, vous le connaissez par cœur alors. Alors, bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices. Et voilà.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi, édition du 17 novembre 2024. Une présentation de Florence Meque. Budget pour l'État du Cameroun en 2025, le président de la République a placé sa préparation sous le signe de l'impulsion socio-économique. Qu'en sera-t-il au Parlement, réuni en session budgétaire depuis le mardi 12 novembre 2024 ?
Des réponses crédibles et efficaces doivent être apportées aux questions liées à la sécurité, à l'éducation, à la santé, et au pouvoir d'achat des Camerounais.
Les Camerounais attendent l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment au niveau des infrastructures routières.
Nous allons vers une orientation où les collectivités territoriales de santé doivent être dotées de beaucoup plus de rudiments pour pouvoir leur permettre d'apporter le développement que les populations attendent.
Seront particulièrement tenues à l'œil les réformes à poursuivre dans le cadre du programme économique du Cameroun avec le Fonds monétaire international.
On ne peut pas à chaque fois avoir des ajustements de fonds monétaires dans des programmes qui sont des mesurettes loin de ce dont nous avons besoin. Les programmes de réforme doivent prendre en perspective ce besoin de l'État du Cameroun de s'endetter le plus qu'il en faut à des coûts accessibles et pour des investissements productifs.
Il y a une mauvaise dette et il y a une bonne dette. Tout le monde s'endette. Il y a même d'autres pays qui sont au-delà. Il faut que l'État, aujourd'hui, avec ses partenaires, révise la qualité de la dette. On doit s'endetter en sachant que quand on s'endette là, on investit dans la production, dans l'augmentation de la productivité qui crée la valeur ajoutée.
Dimanche midi, fait le point du partenariat Cameroun, Fonds monétaire international. C'est l'événement dans Dimanche midi, édition du 17 novembre. 2024. Notre invité, Antonio David, chef de division adjoint au département Afrique du Fonds monétaire international.
Les dirigeants des pays de la région font face à trois obstacles majeurs. Le premier est un taux de croissance qui reste plutôt modeste. Deuxième obstacle, c'est la question de la pénurie de financement qui persiste. Malgré le fait que certains pays ont regagné, par exemple, l'accès aux marchés internationaux d'eurobonds, y compris le Cameroun, en juillet, les taux d'intérêt restent très élevés par rapport au niveau historique. L'autre obstacle majeur est la question des tensions sociales qu'on a observées dans plusieurs pays de la région. C'est lié à des facteurs tels que l'exclusion sociale, l'inégalité, la pauvreté, ainsi que des problèmes de gouvernance, donc un certain manque de confiance de la population dans la capacité des dirigeants du pouvoir public à assurer la bonne utilisation des ressources pour le bien-être de la population.
En débat d'un regard croisé, l'économie camerounaise peut-elle s'affranchir du joug des institutions de Bretton Woods? La planète, notre maison commune, souffle le chaud et les froids. Incendies, inondations, pollution de l'air, éboulements et autres déferlements incontrôlés des forces de la nature semblent rythmer le cycle de vie. Aucun pays n'y échappe.
Les gaz à effet de serre, du fait du réchauffement climatique, ont un effet catastrophique sur les forêts. Les saisons sont perturbées. Les pluies sont plus courtes, mais plus abondantes. Que les températures sont plus élevées et c'est cela qui fait les inondations. Par rapport aux océans, étant donné que l'augmentation de la température provoque la fonte des glaciers, il y a augmentation du niveau de la mer, ce qui va provoquer la disparition de certaines îles.
En page jaune de Dimanche midi, l'urgence de l'action contre l'indifférence climatique. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Bakou, en Azerbaïdjan, nous en donne le prétexte. Invité au dossier de la rédaction, Dr Brice Dundjok, expert en écologie politique internationale, spécialiste des questions de financement des politiques climatiques.
Le changement climatique, dans ses manifestations, est un problème global. Seulement, le Cameroun et l'Afrique en souffrent plus parce que le niveau de développement de nos pays ne nous permet pas de faire face ou d'amortir le choc que de telles catastrophes pourraient imposer à nos espaces sociaux. Pour un pays comme le Cameroun, le plus urgent, c'est l'adaptation. Vous constaterez que dans la structuration des financements climatiques internationaux en Afrique, les pays développés financent plus l'atténuation que l'adaptation.
Rendez-vous à 13h pour prendre le pouls de l'actualité.
Le JDM.
Aujourd'hui dimanche, les rendez-vous cultes de dimanche midi. Le commentaire de la rédaction, opération arrimage aux normes internationales des établissements hôteliers de plus en plus florissants au Cameroun. Fréquence gouvernementale, nouvelle caisse à outils pour prolonger les sillons de l'agriculture de seconde génération. Conversation avec mon voisin, capture des faits de société sous forme d'éphémérides. Valérie Dicos ou Maro.
Quand je le rencontre lundi, il me demande si j'entends les cris de joie dans les quartiers au retour de l'électricité coupée depuis des heures, voire des jours. Les gens crient exactement comme des supporters qui acclament une performance de leur équipe dans un stade. À vrai dire, mon cher voisin, l'ordinaire, c'est l'absence. L'extraordinaire, la présence. Quand l'inhabituel devient normal, nos repères se perdent et nous avec.
Grand reportage, Mont Mandara à la découverte des grottes de Mora dans les entrailles des cavernes souterraines.
Une merveille au cœur des monts Mandara dans la région de l'extrême nord. Les grottes de Mora dans le Mayo Sava.
La grotte là représente vraiment comme la maison des gorilles parce que c'est là où ils se reposaient et ils se cachent là ici.
Pour Tra, c'est juste une pierre qui apparaît comme la lune.
Les gens viennent se reposer parce qu'il y a vraiment la fraîcheur un peu dedans.
Au temps des guerres, c'est là où les décisions se prenaient pour décider de la date, du jour, quelle communauté attaquer. Donc, en quelque sorte, c'est la salle de conseil.
Marwa, Adamu Moussa, CRTV.
DM Sport, Namibie-Cameroun, match nul. Quelles leçons tirées du parcours des Lions Indomptables en tête de groupe et déjà qualifiés pour la CAN Maroc 2025? Ce sera le dernier exercice d'évaluation dans Dimanche Midi. Dimanche Midi, c'est tous les dimanches de midi à 14h. 120 minutes de décryptage des faits marquants de l'actualité de la semaine avec ceux qui font l'événement sous le prisme de la rédaction centrale radio et son réseau régional de correspondants. Merci, mesdames, messieurs, de rester fidèle au poste national de la CRTV.
Dimanche midi, une présentation de
Florence Moqueux.
Le commentaire de la rédaction.
Opération de classement et de reclassement des établissements hôteliers de la ville de Yaoundé à l'initiative du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari. Après la capitale où elle a été lancée le 12 novembre dernier, l'opération devrait s'étendre à l'ensemble du territoire national. Au regard des dérives observées dans le secteur, des étoiles, pas toujours méritées, font pâlir de colère les visiteurs au point d'avoir envie de dire « il était temps ». Le commentaire de la rédaction dans Dimanche Midi, Joseph Clément Oumba.
Si ces dernières années, le secteur hôtelier a connu un véritable boom avec une expansion évidente, une offre plus diversifiée, mais aussi une nette amélioration du service à la clientèle grâce à un personnel de qualité bénéficiant régulièrement de renforcement des capacités et de remise à niveau, il y a lieu de constater que tous les établissements de tourisme du Cameroun ne s'arriment pas toujours à cette nouvelle donne. Et on se demande alors si toutes les étoiles ont la même valeur, ici et ailleurs. Théoriquement, un hôtel 3 étoiles au Cameroun devrait offrir le même type de prestations et de confort qu'un établissement de rang similaire à Paris, à Beijing ou à Johannesburg. Mais à la réalité des faits, ce n'est pas toujours un conseil identique. Et l'on a alors l'impression d'avoir affaire à des étoiles au rabais. Ainsi, beaucoup de spécialistes dressent-ils le constat d'une caducité certaine des catégories existantes, anciennes ou nouvelles, au-delà des exigences de qualité de service attendues. Cela est d'autant plus impératif que notre pays est de plus en plus sollicité pour l'accueil des événements de grande envergure internationale. Plus que jamais, la clientèle est souvent exigeante, même dans les moindres détails, d'où l'urgence d'une remise à niveau permanente, qualitativement et quantitativement. Le lancement de l'opération de classement et de reclassement des établissements qui a été lancé le 12 novembre 2024 à Yaoundé par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Maïgari Belougouba, affiche donc sa pertinence. Elle est éminemment salutaire et appelle au réajustement de l'ensemble des structures de tourisme et de loisirs aux normes et standards internationaux. Cette opération devrait s'effectuer partout au Cameroun, Yaoundé n'étant que le site de la rampe de lancement. Elle devrait surtout s'effectuer sans compromission et sans complaisance pour que le secteur hôtelier soit associé au label de qualité, avec des hôtels plus fiables et plus attrayants. C'est aussi la voie à suivre si nous voulons accueillir plus de touristes au Cameroun. Afrique en miniature, notre pays le mérite si bien.
Osons le dire, parmi les retombées attendues de cette opération, l'on escompte accueillir plus de touristes dans les années à venir. Joseph Clément.
Florence Mecque, on estime que moins d'un million de touristes visitent le Cameroun chaque année. Une performance en deçà des potentialités. Conséquence, notre pays ne fait pas partie des destinations touristiques au sens voulu par l'Organisation mondiale du tourisme. La qualité et l'offre hôtelière y sont pour beaucoup. En dehors de quelques exemples triés sur le volet, la qualité réside surtout sur le papier. Certaines structures sont dans un état de déliquescence qui dessert l'offre, malgré un coût de prestation élevé, une qualité de service qui laisse à désirer. À cela s'ajoute le manque de fiabilité de la compagnie aérienne nationale. Un coût de vol domestique exorbitant et parfois malheureusement aussi de nombreuses tracasseries policières et douanières. En séjour à Cannes, en France, il y a quelques années, un touriste français m'avouait paradoxalement qu'il avait beaucoup apprécié le Cameroun touristique, mais n'était pas prêt d'y revenir. Parce que dans un aéroport international camerounais, un douanier lui avait exigé 100 euros, 65 000 francs CFA, comme frais de sortie du territoire d'un ananas. Un seul fruit, ce qui pour lui exhalait une forte odeur d'arnaque. Sans autre forme de procès, il avait décidé de ne plus revenir au Cameroun. En plus de cela, la qualité de son hôtel le laissait sur sa soif. En somme, le secteur touristique est une chaîne ayant plusieurs maillons, chaque maillon ayant son importance, y compris les infrastructures routières. Parmi les maillons essentiels, les établissements d'accueil. Et au Cameroun, beaucoup de structures de tourisme et de loisirs ont perdu leur éclat d'antan du fait du déficit de maintenance. Une maintenance approximative et peu professionnelle qui a déteint négativement sur la qualité des prestations. L'opération lancée par le ministère du Tourisme et des Loisirs est donc à encourager. Et comme l'a rappelé le ministre d'État, Maïgari Belougouba, l'enjeu est d'attirer le plus grand nombre de touristes, être à la hauteur des sollicitations de plus en plus nombreuses et exigeantes, sans oublier les objectifs fixés par la SND 30, qui arrête à 3,5 millions de touristes, le nombre à accueillir chaque année par notre pays, des touristes externes mais aussi internes. Ainsi allons-nous tirer le meilleur profit d'une diversité touristique que beaucoup de pays nous envient, alliant à la fois les plages naturelles avec nos cités balnéaires, l'écotourisme, le safari et la chasse. Le tourisme équestre également une diversité faisant du Cameroun un véritable paradis touristique.
C'était le commentaire de la rédaction. Joseph Clément Oumba. Sur les sillons mécanisés de l'agriculture de seconde génération, des engins agricoles de divers gabarits et à fonctionnalités multiples ont été rétrocédés en semaine au Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, en abrégé CENEMA. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, invite à franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique de modernisation de la production agricole au Cameroun. Focus sur les nouveaux outils de la politique d'accompagnement des seigneurs de la terre, fréquence gouvernementale dans Dimanche Midi, Laurentine Bekonou. De la houe à la piqueuse de manioc, la révolution agricole dispose désormais de nouveaux outils de travail plus modernes, plus efficaces, susceptibles de produire des résultats plus efficients. Ainsi, en un jour, un événement, le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, en abrégé CENEMA, s'est vu rétrocéder un parc important d'engins agricoles. Il s'agit de 116 engins lourds, 150 engins roulants, 239 tracteurs, des moissonneuses, des piqueuses de manioc avec un jet de pièces de rechange. Cette nouvelle caisse à outils devrait permettre de donner une nouvelle impulsion à la modernisation de la production agricole au Cameroun. C'est tout le sens qu'il faut donner aux recommandations faites par le gouvernement à la direction générale du CENEMA.
Tous ces engins et équipements seront dès aujourd'hui entièrement rétrocédés au CENEMA en vue de l'optimisation de leur utilisation dans le cadre d'une approche globale de développement des activités agro-pastorales, toutes filières confondues. Dans cette logique, je demande aux dirigeants de cette entreprise publique de mettre en place une stratégie efficace et offensive de déploiement de ces équipements dans les divers bassins de production de notre pays, afin que tous les agriculteurs et toutes les agro-industries puissent y avoir accès.
Joseph Dion Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement.
Grâce à la coopération avec l'Inde, une enveloppe substantielle a été investie dans cet ambitieux projet qui, j'en suis convaincu, va radicalement transformer le paysage de notre secteur agricole. Il convient de relever que certains d'entre eux ont même été assemblés sur place. Qu'il me soit permis d'exprimer à Monsieur le Président de la République la profonde gratitude du gouvernement ainsi que celle de tous nos concitoyens pour cet important projet.
Il y a 8 ans, le chef de l'État, Paul Biya, invitait à investir dans les produits car la terre ne trahit jamais, indiquait-il à la jeunesse camerounaise le 10 février 2016. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. L'exhortation du président de la République, Paul Biya, devrait trouver plus d'allant sur le terrain grâce à ce nouvel élan donné à la politique de mécanisation agricole. Alamine Ousmane Mé, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Nous devons veiller à ce que les résultats correspondent aux efforts financiers déployés par l'État. En effet, dans un contexte de rareté des ressources financières, il faut relever que le CENEMA, doté de ses engins, devra progressivement réduire sa dépendance aux subventions qui viennent de notre État.
Le cap est donc mis sur l'agriculture de seconde génération. Résolument, les outils pour y parvenir feront le reste, assurément. Fréquence gouvernementale, dans Dimanche Midi, Laurentine Bekono, CRTV.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi. Dimanche midi, l'événement.
Après l'ouverture de la troisième session ordinaire de l'année législative le 12 novembre 2024, déjà 12 projets de loi en examen à l'Assemblée nationale. En bonne place, le projet de loi de règlement pour l'exercice 2023. Au fil des jours, l'activité se fait intense au Parlement. En attendant l'arrivée du projet de loi de finances 2025, le principal enjeu de la session de novembre en cours. Le président de la République avait placé sa préparation sous le signe de l'impulsion socio-économique. Qu'en sera-t-il au Parlement ? C'est l'événement dans Dimanche midi. À l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yegué Djibril, avait préconisé que le projet de budget 2025 réponde aux aspirations des populations. De son côté, le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, avait plaidé pour la conservation des acquis et l'amélioration des conditions de vie des populations. Budget de l'État pour l'exercice 2025, au cœur des préoccupations des populations, nous faisons le point avec Julienne Polongono.
Comme il est de tradition au Parlement, la session ordinaire du mois de novembre est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances pour le prochain exercice. À l'ouverture des travaux à l'Assemblée nationale, le président de l'Auguste Chambre est revenu sur l'importance du projet du budget de l'État qui doit rassurer les Camerounais dans leur globalité. Le très honorable Kava Yegué Djibril.
Au-delà, je voudrais également vous rappeler le caractère sensible de l'année 2025 au regard de l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Votre programme et le projet de budget sur lequel il sera adossé devront à la fois consolider les acquis, mettre les Camerounaises et les Camerounais en confiance.
Tout en appelant au respect des acquis, le premier vice-président du Sénat n'a pas manqué de présenter au gouvernement les attentes des collectivités territoriales décentralisées pour le budget de l'État 2025. Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye.
Des réponses crédibles et efficaces doivent être apportées aux questions liées à la sécurité, à l'éducation, à la santé et au pouvoir d'achat des Camerounais. Nous attendons qu'ils poursuivent, entre autres, l'assainissement des comptes publics et la justice fiscale.
C'est donc une session particulière, comme l'a souligné le ministre délégué à la présidence de la République en charge des relations avec les assemblées. François Bolvin Ouakata appelle au dialogue et à l'écoute lors de l'examen du projet de loi de finances 2025.
Ce moment n'est pas seulement crucial pour nos institutions. Il l'est aussi pour nos concitoyens et pour l'avenir de la nation. Car, vous le savez, le budget de l'État dépasse de loin le statut de texte législatif ordinaire. Il est le miroir de nos priorités, le reflet de notre engagement collectif au service de la République. Que cette session soit un moment de dialogue véritable et d'écoute mutuelle.
Députés et sénateurs attendent déjà la copie physique du prochain budget de l'État.
Sénateur Ali Maradji, les Camerounais qui attendent l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment au niveau des infrastructures routières.
Honorable Roland Gonsi, député PCRN. Aujourd'hui, nous allons vers une orientation où les collectivités territoriales de santé doivent être dotées de beaucoup plus de rudiments pour pouvoir leur permettre d'apporter le développement que les populations attendent.
Et pour atteindre le projet de loi de finances 2025, le décor s'implante progressivement au palais des congrès de Yaoundé avec le dépôt à l'Assemblée nationale de 12 projets de loi, dont le texte portant loi de règlement de la République pour l'exercice 2023. Certains textes ont déjà été examinés par les commissions compétentes à l'Assemblée nationale. Sur l'importance du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, voici les explications du ministre des Transports, Jean-Ernest Masenangale Bibéhé.
Les principaux avantages de ce document-là sont d'abord techniques. Parce qu'il s'agit avant tout d'améliorer la sécurisation des ports, d'améliorer la sécurisation de nos eaux. Il s'agit de veiller à un environnement qui soit sain et surtout multiplier les infrastructures côtières.
Annoncé par le premier vice-président du Sénat, Boubacary Abdoulaye, lors de l'ouverture de la session ordinaire du mois de novembre, le projet de loi portant fiscalité locale est déjà sur la table des parlementaires. Sénateur David Etame Massoma.
J'ai envie de dire enfin, parce que c'est un texte attendu depuis plusieurs années.
Sénateur Benjamin Amama Amama.
Il vient combler un vide qui commençait déjà à trop durer. Nous ne pouvons que dire merci au gouvernement pour cela.
Ce projet de loi porte l'espoir de l'ensemble des acteurs de la décentralisation. Sa Majesté Jean-Marie Mama, sénateur.
La loi sur la décentralisation, au moment de l'adoption de cette loi, nous avons dénombré environ 242 articles qui renvoyaient à des textes d'application.
Au regard des textes déposés, de l'abondante activité des réseaux des parlementaires, déjà une plénière consacrée aux questions orales au Sénat, députés et sénateurs ont du grain à moudre.
C'était un reportage de Julien Polungono. L'État du Cameroun, à travers son gouvernement, s'attelle à poursuivre les réformes économiques proposées par le Fonds monétaire international. La dernière mission du FMI, dans le cadre de la 7e revue du programme économique et financier, appuyée par la facilité élargie de crédit, a salué la gestion des finances publiques et souligné la nécessité de poursuivre les réformes en cours. Avec un taux de croissance projeté à 4% en 2024, une inflation proche de 6% et un taux de pauvreté qui a augmenté de 2%, l'institution financière conseille des réformes sur la politique budgétaire, monétaire, l'endettement, la gouvernance et l'amélioration du climat des affaires. Le but étant de renforcer la stabilité macroéconomique du pays pour une croissance inclusive et durable. Économiste et expert financier décrypte ces réformes dans ce reportage que signe Séraphin Djikan.
La résilience de l'économie camerounaise, cette capacité qu'elle a de faire face aux chocs à la fois exogènes et endogènes, est reconnue de tous. Mais au regard de certaines fragilités, le Fonds monétaire international propose des réformes pour la gestion saine des finances publiques au Cameroun. Georges Meka, économiste, et Ernest Cédric Touna, expert en développement et gouvernance.
Le Fonds monétaire international a pour rôle de s'assurer de la stabilité économique, macroéconomique, budgétaire, des équilibres budgétaires des pays. Les banques centrales du monde s'assurent que les pays et l'économie mondiale n'entrent pas en déficit. Elle a un rôle de conseiller et de prêteur pour financer les déséquilibres budgétaires.
Ces réformes structurelles visent à attirer les investissements privés nationaux, directs étrangers. Le programme de développement soutenu par le FMI prévoit une amélioration accrue des recettes non pécuniaires, contribuant ainsi à diversifier l'économie camerounaise et réduire la dépendance du Cameroun aux exportations de pétrole.
S'il est vrai que le Cameroun a pu implémenter certaines réformes dans le cadre de son programme avec le FMI, il est toutefois important de souligner la nécessité de poursuivre ses encours.
L'inflation au Cameroun reste très élevée, proche des 6%, principalement en raison de la hausse des prix des carburants et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Bien que les réformes budgétaires aient réduit le déficit primaire hors pétrole, la seule adhésion aux conditionnalités du FMI ne garantit pas une stabilité économique durable. Des réformes structurelles additionnelles et l'amélioration de la performance du secteur privé sont donc nécessaires pour renforcer la résilience économique de notre pays.
Le programme d'investissement prioritaire de l'État du Cameroun indique les besoins en infrastructures que le pays doit mobiliser entre 2024 et 2026 s'élève à 21 000 milliards de francs CFA pour financer les projets structurants et augmenter l'enveloppe des investissements. les analystes économiques et autres acteurs du secteur privé préconisent de recourir à un endettement de qualité. Célestin Tawamba, président du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, et Dr Simon-François Yonga, économiste.
On ne peut pas à chaque fois avoir des ajustements de fonds monétaires dans des programmes qui sont des mesurettes loin de ce dont nous avons besoin. Les programmes de réforme doivent prendre en perspective ce besoin de l'État du Cameroun de s'endetter le plus qu'il en faut à des coûts accessibles et pour des investissements productifs.
Il y a une mauvaise dette et il y a une bonne dette. Tout le monde s'endette. Il y a même d'autres pays qui sont au-delà. Il faut que l'État, aujourd'hui, avec ses partenaires, révise la qualité de la dette. On doit s'endetter en sachant que quand on s'endette là, on investit dans la production, dans l'augmentation de la productivité qui crée la valeur ajoutée.
Le Fonds monétaire international, dans le cadre de la publication récente à Yaoundé des perspectives économiques régionales d'Afrique subsaharienne, met l'accent sur la diversification économique, la politique budgétaire et monétaire, la mobilisation des recettes internes. Georges Meka Abesolo, expert en finances publiques.
La mobilisation des recettes internes sont déjà des impôts qui existent depuis plusieurs lois de finances. Mais l'État n'avait pas jusqu'à date le moyen de collecter. Donc c'est des revenus sur le foncier, notamment sur les mines.
L'un des aspects majeurs des réformes proposées par le FMI, c'est l'amélioration du climat des affaires et une implication plus active du secteur privé qui connaît certaines difficultés. Célestin Tawamba, président du GECAM.
Le secteur privé a besoin de s'industrialiser et pour s'industrialiser, il a besoin d'infrastructures, il a besoin d'énergie. Il faudrait qu'on arrive à faire ces choix stratégiques-là importants et mettre tout en œuvre pour que la résorption de ces deux problématiques se fasse rapidement.
Le taux de pauvreté est en augmentation de 2% au Cameroun. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, l'on compte au total 10 millions de personnes pauvres dans le pays, pour créer des espaces budgétaires afin de financer les couches sociales vulnérables. Le FMI conseille la réduction des subventions, des prix du carburant à la pompe et d'investir plus dans les secteurs porteurs, notamment l'agriculture. Georges Meka et Simon-François Yonga, économistes.
Nous-mêmes, pays producteurs, nous ne sommes plus en mesure depuis un certain nombre d'années de raffiner notre pétrole qui accentue un coût externe à l'exportation du pétrole. Donc cette ardoise est vue. Les dépenses de moins 700 milliards de francs CFA au budget national de l'État, au poste carburant et en subvention, s'est élevé face également aux enjeux d'instabilité mondiale depuis le Covid, de la crise russo-ukrainienne.
Nous sommes un pays agricole et nous ne pouvons nous développer par l'agriculture. Il y a des possibilités d'absorption et de création d'emplois, des emplois pérennes. L'État est là pour accompagner le secteur privé.
La vision est tracée. La stratégie nationale de développement SND 30 constitue la boussole pour conduire le Cameroun à l'émergence en 2035. Mais la réalisation totale des réformes proposées par le FMI s'avère nécessaire pour espérer des taux de croissance supérieurs aux 4% projetés en 2024.
Dimanche midi, face à la rédaction.
3,6% de croissance générale en Afrique subsaharienne en 2024, 4,2% selon les prévisions pour l'année 2025. Les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne sont consignées dans le rapport d'octobre 2024, produit par le Fonds monétaire international et publié cette semaine à Yaoundé. L'évaluation des experts classe les pays par similitude dans différents groupes bien précis. La présentation du rapport économique du FMI à Yaoundé était conduite par le directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international, FMI. Antonio David est l'invité de dimanche midi. Il répond aux questions de Oswald Modoum.
Monsieur Antonio David, bonjour.
Bonjour.
Le Fonds monétaire international vient de rendre publiques les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Au regard de vos conclusions, ces perspectives sont-elles plutôt rassurantes ou inquiétantes en prenant l'Afrique subsaharienne comme un tout?
Je dirais que les perspectives pour la région s'améliorent d'une manière graduelle. Nous constatons que les efforts qui ont été réalisés en termes d'ajustement des politiques macroéconomiques commencent à porter des fruits. L'effort de consolidation budgétaire, par exemple, contribuait déjà à stabiliser la trajectoire de la dette, certes à un niveau encore élevé, autour de 58% du PIB. De plus, les efforts en ce qui concerne le resserrement de politiques monétaires ont contribué à modérer la hausse de l'inflation. Mais il est vrai qu'il y a des vulnérabilités qui persistent dans la région, certes à des degrés différents entre les pays. Il y a des pays qui présentent encore des taux d'inflation à deux chiffres, à peu près un tiers des pays de la région. Il y a des pays aussi qui démontrent une faible capacité à faire face aux services de la dette. Et finalement, au niveau des réserves d'échange, au niveau du secteur extérieur, à peu près un tiers des pays encore présentent des niveaux de réserves qui sont, disons, insuffisants. Dans ce cas-là, il y a encore du travail à faire. Et dans la poursuite des bonnes politiques macroéconomiques et des réformes, les dirigeants des pays de la région font face à trois obstacles majeurs. Le premier est un taux de croissance qui reste plutôt modeste. Donc nous attendons à une croissance en 2023 autour de 3,6% et en 2025 une légère, une modeste accélération pour se situer autour de 4,2%. Ce taux-là, il est toujours insuffisant pour faire des progrès rapides en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et pour assurer une convergence rapide vers les pays émergents. Ça, c'est le premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est la question de la pénurie de financement qui persiste. Malgré le fait que certains pays ont regagné, par exemple, l'accès aux marchés internationaux d'eurobonds, y compris le Cameroun, en juillet, les taux d'intérêt restent très élevés par rapport au niveau historique. Donc, les conditions de financement restent assez serrées. Finalement, l'autre obstacle majeur est la question des tensions sociales qu'on a observées dans plusieurs pays de la région, y compris le Nigeria, juste à côté, et le Kenya. Donc c'est un phénomène assez complexe, ce phénomène d'agitation, tension sociale, c'est lié à des facteurs tels que l'exclusion sociale, l'inégalité, la pauvreté, ainsi que des problèmes de gouvernance, donc un certain manque de confiance de la population dans la capacité des dirigeants du pouvoir public à assurer la bonne utilisation des ressources pour le bien-être de la population. Et tout ça est aggravé par la question de la cherté du coût de la vie, en particulier l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Tout ça a contribué à aggraver ces tensions sociales.
Le titre du rapport, c'est « Entre réformes et grande espérance ». Ça renvoie à quoi de façon concrète?
Il s'agit vraiment des arbitrages difficiles auxquels les dirigeants de la région font face. Il y a ce besoin d'assurer, de maintenir la stabilité macroéconomique, réduire les vulnérabilités et en même temps faire face aux besoins en termes de développement et bien sûr assurer que les réformes et les ajustements nécessaires sont bien acceptés du point de vue social par la population. On parle des grandes espérances, il s'agit surtout des attentes de la population, du public par rapport aux résultats de ces réformes et de ces ajustements macroéconomiques au niveau de la croissance, de la réduction de la pauvreté et de l'inégalité.
Des réformes indispensables pour changer la donne.
Tout à fait.
Selon votre classement, le Cameroun se retrouve dans trois groupes de pays, les pays exportateurs du pétrole, les pays à revenus intermédiaires et les pays fragiles ou touchés par un conflit. Si pour le premier et le deuxième groupe, on comprend facilement ceux qui militent en faveur, c'est le moins pour ce qui est du deuxième groupe. Est-ce que c'est un bon point quand même pour les pays qui y figurent?
Je voudrais peut-être commencer par le point de vue un peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire pays à revenus intermédiaires?
Ouais.
Ça veut dire que le Cameroun présente un niveau du revenu national brut par tête qui est supérieur à 1 145 $. Donc c'est ça que ça veut dire. Il y a un phénomène qu'on appelle le piège des pays à revenus intermédiaires. Ça veut dire que les pays qui se situent dans ce groupe-là, souvent, n'arrivent pas à franchir le cap, à avancer vers un niveau de revenus plus élevé, à devenir des pays riches.
Un palier plus supérieur.
Voilà,
un palier supérieur.
C'est ça. Dans ce rapport-là, sur les perspectives économiques sur l'Afrique subsaharienne, nous discutons certaines pistes que les pays peuvent suivre pour échapper à ce piège-là. À la base de tout, bien sûr, c'est la question de la stabilité macroéconomique et la poursuite des politiques économiques prudentes. Donc ça, c'est une condition nécessaire, bien sûr. Mais nous parlons également des réformes et des mesures pour accélérer la création d'emplois. Et il s'agit surtout, bien sûr, d'investir sur la formation des personnes, mais aussi réduire les barrières à la croissance des entreprises de la région, Donc il s'agit d'améliorer le climat des affaires, faciliter l'accès au financement, l'accès à des infrastructures telles que l'électricité, réduire l'informalité et aussi faciliter ce qu'on appelle le changement structurel, c'est-à-dire la croissance des secteurs qui sont à haute productivité. Une autre piste qu'on explore dans le rapport est liée à la question de la diversification. Donc au-delà de tout ce que je viens de dire au niveau de la création d'emplois, il y a un volet important pour la diversification aussi qui est la question de la gouvernance, améliorer la gouvernance, la lutte contre la corruption. Et finalement, nous parlons également des possibilités de gains macroéconomiques liés à des politiques pour réduire les disparités de genre. Donc on fait des estimations dans le rapport et on constate que si on arrive à combler les écarts en ce qui concerne le taux de participation dans le marché de travail entre les hommes et les femmes, on pourrait en moyenne augmenter les niveaux du PIB des pays de la région autour de 10%. Donc c'est des gains très considérables.
Vous allez me permettre un peu de vous poser une question en ce qui concerne justement les groupes de pays et revenir un peu sur les pays fragiles ou touchés par un conflit. Le Cameroun en fait partie forcément. Dites-nous, qu'est-ce que le FMI préconise pour ces pays-là? C'est vrai peut-être que les solutions de sortie de crise dépendent essentiellement des pays, mais qu'est-ce que le FMI peut donner comme conseil à ces pays pour sortir de ce groupe-là?
Le FMI, il appuie les pays sur trois volets, normalement. Le premier, c'est la question des conseils, des politiques macroéconomiques pour maintenir la stabilité et jeter les bases d'une croissance durable et inclusive. Donc ça passe par ça. Sortir de ces situations de conflit passe certainement par la mise en œuvre des politiques pour promouvoir une croissance inclusive, y compris les mesures que je viens de vous expliquer, oui. Les pistes qu'on a explorées dans le rapport. Ça, c'est un volet. L'autre volet, bien sûr, c'est l'appui financier. Et l'appui financier du FMI pour la région a augmenté au cours des 4 dernières années. Nous avons fourni des appuis à la hauteur de plus de 60 milliards de dollars pour la région. Les niveaux de décaissement en 2024 se situent à plus de 5 milliards de dollars déjà. Et il y a 26 pays qui bénéficient des programmes de financement appuyés par le FMI. Le troisième volet sur lequel on essaye d'appuyer les pays porte sur le renforcement des capacités. Là, il y a eu un focus spécifique sur les pays fragiles et affectés par les conflits, où on essaye de vraiment concentrer nos efforts sur ces pays-là, qui, bien sûr, ont le plus de besoin de nos efforts en termes de renforcement des capacités.
En quoi et comment ces résultats peuvent-ils influencer les décisions du FMI vis-à-vis des États de l'Afrique subsaharienne, de façon globale?
Le FMI est là pour appuyer les États. Normalement, les programmes sont élaborés par les États mêmes. Ils sont appropriés par ces États. Le FMI vient souvent avec un appui financier. Quand on constate que la mise en œuvre du programme est satisfaisante, on réalise des décaissements. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Dès que nous considérons que les objectifs de programme réussissent à renforcer la stabilité macroéconomique et promouvoir une croissance inclusive, nous sommes prêts à les appuyer.
Vous venez donc de séjourner au Cameroun pour une mission précise. Au moment où celle-ci touche à sa fin, quel est le sentiment qui vous anime?
Ce que j'ai retenu de cette mission, c'est vraiment l'accueil chaleureux des autorités camerounaises et aussi du peuple camerounais, ainsi que les échanges et les débats de haute qualité avec les étudiants, les enseignants. On était à une université, la société civile et bien sûr les autorités, les décideurs, ainsi que les journalistes même. On a eu des débats très intéressants.
Et on va sortir avec une question un peu plus légère. Quel est le souvenir que vous garderez du Cameroun?
Vraiment, c'est un intérêt sincère pour les questions économiques régionales, allant au-delà des défis et les échanges fructueux vraiment avec les différents interlocuteurs.
Merci encore d'avoir accepté de répondre aux questions de dimanche midi.
Merci à vous.
Dimanche midi, place au regard d'experts.
Toujours perçus comme une camisole de force, les programmes des bailleurs de fonds mis en œuvre auprès des pays africains sont-ils menés dans l'intérêt des économies nationales? Au moment où le Parlement camerounais s'apprête à se pencher sur le projet de loi de finances 2025, regard croisé s'interroge ce dimanche. Bonjour Sardi Lawan, je vous laisse en compagnie de vos invités.
Bonjour Florence, dans un contexte de session parlementaire dont le clou sera certainement l'examen et l'adoption de la loi de finances 2025, on parle de budget et de réalisation de ce budget-là, tout cela sous le regard attentif des bailleurs de fonds. Une mission du FMI était d'ailleurs à Yaoundé cette semaine. Edmond Kouyaté et Albert Zé sont tous les deux économistes, ce sont nos invités de ce dimanche. Nous sommes dans un contexte d'examen et de vote de la loi de finances 2025. Il y a des visites des délégations de certains bailleurs de fonds au Cameroun au même moment. Comment faudrait-il interpréter cela, Edmond Kouyaté?
faudrait un peu rappeler dans quel contexte les institutions de Bretton Woods ont été créées, notamment le FMI et la Banque mondiale, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que très souvent, on a tendance à prendre ces institutions pour des banques de développement ou alors des banques d'investissement. C'est pas le cas. Ce sont des institutions qui ont été créées pour essayer de proposer des programmes d'ajustement lorsqu'il y a des fébrilités dans les budgets nationaux. Et donc, leur mission, c'est d'essayer d'aider les nations en fébrilité budgétaire, de les aider à rattraper un peu à travers certains programmes, certains équilibres macroéconomiques. Et donc, pour le cas du Cameroun, comme pour beaucoup d'autres cas, nous n'y allons pas de gaieté de cœur. Lorsqu'il s'invite, lorsqu'il arrive chez vous, il prend les manettes de commande de votre budget et il se rassure que là où ça présente, n'est-ce pas, des déséquilibres, il vous propose des programmes pour pouvoir les équilibrer. C'est notamment le cas du Cameroun depuis 2017. Il nous semble que c'est un programme qui était triennal, qui a été prolongé plusieurs fois, qui a été encore prolongé en 2020 jusqu'en 2024. Et donc, le FMI s'invite lorsque nous n'avons pas été en capacité de pouvoir équilibrer notre budget et dégager la quantité qui nous permet d'assurer notamment le service de la dette et honorer nos engagements vis-à-vis des partenaires, que ce soit bilatéraux et multilatéraux.
Albert Zé.
Ce que je voulais dire ici, c'est que effectivement, ce sont des institutions qui agissent au moment où il y a des défaillances dans la gestion interne. Ça, il faut qu'on le dise de manière claire et de manière simple. C'est-à-dire qu'en fait, si nous étions dans des pays où nous avions une gestion interne qui présente un certain nombre de résultats positifs, on se serait certainement passé de tous ces partenaires au développement, peut-être de manière stricte comme cela se fait actuellement. On aurait certainement bénéficié de leur expertise ou alors de leur encadrement sur certaines choses, mais pas véritablement comme nous le vivons aujourd'hui où de temps en temps ou alors le plus souvent nous avons des directives qui viennent de ces partenaires au développement de telle manière à ce qu'ils peuvent effectivement venir nous dire ce que nous devons faire dans notre économie. Tout cela relève en fait de la faiblesse de la gestion interne de nos économies, de la faiblesse même de la gouvernance chez nous, parce qu'il faut le dire, le plus souvent, nous assistons même parfois à des directives des partenaires au développement qui ne cadrent pas avec nos réalités, mais tout simplement parce qu'on a une défaillance interne qui voudrait que beaucoup de nos experts qui maîtrisent un peu l'environnement local ne sont pas suivis ou alors ne sont pas écoutés. Et du coup, on se retrouve donc en train d'aller vers une mauvaise gestion et qui nous coûte effectivement cette ingérence, je dirais comme ça, de ses partenaires au développement. Le plus souvent aussi, vous allez voir que de l'autre côté, dans les équipes de ses partenaires au développement, généralement, il y a des Camerounais, il y a des Africains qui maîtrisent l'environnement, ces experts qui n'ont pas été effectivement écoutés chez eux et qui connaissent un peu la mauvaise gouvernance, qui connaissent un peu les défaillances de nos systèmes et qui essayent en quelque sorte de boucher les trous lorsqu'ils sont déjà au niveau de ces partenaires de développement. Voilà un peu la lecture que je peux faire là-dessus.
Edmond Kouyaté, l'étiquette qui colle à ces bailleurs de fonds, c'est généralement le fait que dès qu'ils entrent chez vous, les mesures impopulaires sont nombreuses et du coup, il y a un décalage entre les attentes de la population et les exigences de ces institutions-là.
Ce qu'il faut souligner, c'est que lorsque ces gens s'invitent, ils ont une mission. C'est de recouvrer au maximum de l'argent pour pouvoir honorer les engagements que vous n'avez pas pu faire de manière délibérée. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas capable d'honorer vos engagements, c'est-à-dire en termes de service de la dette, le FMI vient donc et sa préoccupation majeure est de faire en sorte que cet argent-là soit mobilisé. De ce fait, le FMI ne va pas avoir un regard assez prégnant sur les préoccupations d'ordre social dans votre pays. C'est pourquoi ils vont généralement imposer des plans d'ajustement qui s'allient avec des plans d'austérité, avec des mesures sociales. Vous avez souvenance au Cameroun, le premier plan que nous avons eu avec le FMI qui s'est achevé en 2006 avec l'atteinte du point d'achèvement et qui a duré presque 20 ans. Le plan d'ajustement structurel a été très austère pour le Cameroun. Ça avait commencé par l'obligation pour le Cameroun de se départir d'un ensemble d'outils de production, ce qu'ils avaient appelé la privatisation, qui consistait à donner à des fonds symboliques l'ensemble de nos moyens de production concentrés autour des sociétés d'État du Cameroun. Vous vous souvenez, la Sonel, Camrail, la SNEC, la Socapalm, Evecam, tout ça, on avait été obligé de le vendre parce qu'on disait à l'époque, voilà, l'État était un mauvais gestionnaire, il faut céder ça à des privés. Et aujourd'hui, on voit tous le résultat que ça nous a apporté. Et après, ça a été, on a poussé l'État à faire des compressions de personnel, on a déflatté, on a renvoyé. L'État s'est départi d'un bon nombre, n'est-ce pas, de son personnel. Ça a créé, c'était encore un plan austère, parce que ça a créé tout ce que ça a créé. Ensuite, on a forcé l'État à procéder à des coupes de salaire, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, le Cameroun continue d'en pâtir. Donc, il faut savoir que c'est pas des gens qui vont venir ici pour vous aider à structurer votre organisation sociale. Non, leur préoccupation majeure, c'est d'explorer des nouvelles niches fiscales, voir là où vous ne collectez pas suffisamment et vous dire collectez ici. Je vais encore revenir sur le programme avec lequel nous sommes avec le FMI. Les gens ne le savent pas, mais c'est pas de gaieté de cœur, par exemple, que le gouvernement a décidé de relever le taux du carburant à la pompe. Non, c'est pas de gaieté de cœur. Il faut savoir que le gouvernement, c'est pas comme un bourreau qui veut à tout prix bouffer les citoyens. Non, mais c'est un peu sous le diktat de ses partenaires au développement, là, le FMI notamment. C'est un peu sous leur diktat. Vous avez entendu que le FMI a dit à l'État, il faut arrêter de subventionner le carburant. Et puis, l'arrêt de la subvention induit forcément, n'est-ce pas, le relèvement de taux à la pompe. Vous avez appris que le FMI a dû dire non, vous devez arrêter, n'est-ce pas, la subvention que vous accordez sur un certain nombre de produits de grande consommation. Avant, par exemple, le riz et d'autres produits de grande consommation étaient exonérés d'un ensemble d'obligations tributaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est toujours sous le diktat du FMI. Donc, il ne faut pas vous attendre à ce qu'ils prennent des mesures qui vont aller dans le sens de rassurer les populations et ou alors d'organiser votre système social. C'est pas le cas, c'est pas leur mission.
Albert Zé, est-ce que les économistes africaines peuvent se passer de ces bailleurs de fonds internationaux, du moins ceux de Bretton Woods? Comment?
C'est possible de se passer d'eux. Je vais reprendre ici ce que disait généralement un de nos enseignants d'économie. Pour se développer, il faut juste être un peu sérieux, pas plus. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est expliqué, je le disais déjà, que le plus souvent, ce ne sont pas des mesures qui viennent apporter une solution à la population et des mesures qui ne sont pas adaptées effectivement à la vie sociale, à l'environnement socio-économique du pays. Donc, forcément, tant des gens ont des mesures, c'est premièrement pour leur bien, premièrement pour atteindre leurs objectifs. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour atteindre nos objectifs? Et nous avons cette ingérence aujourd'hui parce que effectivement nous avons des failles, comme on le disait depuis. Nous avons des failles, c'est à la suite de toutes ces failles-là, à la suite de la mauvaise gestion, à la suite de la mauvaise gouvernance, que effectivement on se retrouve un peu comme étant comme si on entrait dans un monde de conduite automatique qui est maintenant mise en place par ces institutions-là. Nous pouvons effectivement aller vers une indépendance, c'est-à-dire que, premièrement, comme je le disais, nous avons un souci en Afrique, nous avons un souci dans nos pays, c'est que nous négligeons ceux-là qui sont des experts et qui peuvent effectivement apporter un certain nombre de solutions pour l'avancement de nos économies. Mais malheureusement, comme on l'a souvent relevé, le marché de l'intelligence, non seulement en Afrique, mais particulièrement au Cameroun, est inexistant, au point où on se retrouve avec beaucoup d'experts dans notre pays qui vont effectivement intégrer ces institutions. Et la conséquence immédiate, c'est que ces experts, connaissant un peu la mauvaise gouvernance, connaissant un peu le goulot de changement qu'il y a dans la gestion et la gouvernance de nos économies, essayent d'apporter des solutions un peu plus drastique, mais il faut également savoir qu'ils servent désormais les intérêts de ces institutions. Donc, ils ne peuvent plus attendre pour s'en apporter des solutions qui sont adaptées à l'environnement socio-économique du pays. Donc, aujourd'hui, les questions, si nous voulons effectivement vivre une vie, je dirais une vie épanouie, il faudrait que nous puissions tenir compte du fait que nous avons de l'expertise et mettre effectivement en place un mode de gouvernance qui permet à ce que nous puissions être crédibles et que nous puissions déjà nous-mêmes relever un certain nombre de résultats positifs dans notre gouvernance.
Edmond Kouyaté, il s'agirait de doter toute raison à ces institutions d'entrer dans nos pays africains. En quoi faisant,
Alors, la question que vous posez, peut-on se passer, n'est-ce pas, de ces institutions? Je veux parler sous le contrôle du docteur Zay, qui est médecin en même temps, qui est d'abord médecin avant d'être économiste. Oui, c'est comme si vous diriez, peut-on se passer des services d'un médecin? Effectivement, on peut se passer des services d'un médecin en évitant tout simplement les comportements qui invitent la maladie, n'est-ce pas, dans notre organisme. Si vous menez une vie hygiénique pas très responsable, évidemment que la maladie est très vite au rendez-vous et les services du médecin vont s'imposer à vous. Et donc, on n'a pas besoin du FMI, par exemple, pour nous rappeler que nous devons mettre de l'ordre et de la discipline dans la gestion de notre budget. On n'a pas besoin du FMI. Pendant des années, nous avons mis le doigt, n'est-ce pas, avec beaucoup d'accent et beaucoup d'emphase pour dire les dépenses de l'État sont exagérées et ne peuvent pas nous conduire à des résultats probants, n'est-ce pas, en termes, je vais dire, de gestion budgétaire. Ça ne peut pas. Et donc, on n'avait pas besoin du FMI pour le faire. Il y a tellement de choses à redire, à revoir dans la gestion de notre budget. Il y a tellement de choses à faire, à revoir dans la manière, n'est-ce pas, de tenir notre budget, qu'on n'a pas besoin que ces gens-là viennent nous dire que, ben, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a que deux façons, lorsque vous avez des déficits budgétaires énormes, il n'y a que deux façons. Il n'y a pas 10 000 façons de le faire. Lorsque vous avez, vous présentez des déficits budgétaires énormes, lorsque le déficit commence à se creuser, vous regardez un peu s'il y a de la discipline dans votre gestion budgétaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dépenses de l'État. Vous revoyez la structure de vos dépenses. Quelles sont les dépenses qui sont, non objectives par rapport à l'atteinte de certains objectifs que l'État s'est fixés? Quelles sont les dépenses qu'on peut écarter? Vous l'écartez vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous le rappeler. Et maintenant, vous regardez quelles sont les niches qu'on n'explore pas suffisamment. Où est-ce qu'on peut augmenter sans créer une cassure au niveau de la société, sans créer une pression énorme sur les acteurs, n'est-ce pas, qui contribuent dans l'assiette fiscale de l'État. C'est ce que vous faites. C'est une pondération permanente que vous devez rechercher, n'est-ce pas, dans votre budget. Et vous n'avez pas besoin qu'une institution, n'est-ce pas, vienne de l'extérieur pour vous le dire. Moi, personnellement, tout ce que les gens disent aujourd'hui, le dictat du FMI, le FMI demande si le FMI demande. Non, nous-mêmes, nous devions regarder à fond, c'est-à-dire on n'avait pas besoin que ces gens arrivent pour le faire. Et donc aujourd'hui, si nous voulons sortir des griffes de ces gens-là, parce que quand eux ils viennent avec une manière brutale et violente. Vous avez vu par exemple le Cameroun, lui-même n'avait, quand on augmentait par exemple le prix du carburant, c'était généralement de l'ordre de 25 francs, 50 francs. Et même là, ça faisait déjà grincer les dents. Mais vous vous êtes rendu compte que la dernière fois, on a augmenté de presque 100 francs. Donc, c'est pour dire que ces gens-là, quand ils arrivent, ils font avec brutalité ce que vous auriez pu faire avec souplesse, avec légèreté, sans, n'est-ce pas, heurter la sensibilité des populations, dans la société. D'accord. Donc, il faut tout simplement que nous imposions plus de rigueur, plus de discipline dans la gestion de notre propre budget. Et de ce fait, nous allons éviter que ces gens-là, n'est-ce pas, ne s'imposent à nous à chaque fois.
Albert Zé, on va terminer par vous. Cette discipline budgétaire, on en parle tout le temps. Ce n'est pas la volonté qui manque de la part de l'État.
Le président de la République l'a annoncé plusieurs fois qu'il faut rationaliser les dépenses, il faut réduire le train de vie de l'État. Mais rien n'est fait parce que, effectivement, l'action ne suit pas les discours. Et tout simplement parce que aussi, il faut savoir que la première action qu'il faut pour rationaliser les dépenses, pour rationaliser tout ce qui a fait le train de vie de l'État qui doit être réduit, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose à faire, c'est la rationalisation des institutions. C'est-à-dire que nous devons premièrement réduire le trop plein d'institutions que nous avons parce que nous avons une multiplicité des institutions qui fait que nous avons des institutions qui se marchent carrément sur les pieds. Et à partir de ce moment, il faut rentrer dans une configuration, qu'on peut dire ici une configuration normale des pays qui veulent aller vers l'émergence. Parce que nous avons essayé de faire une analyse pour comprendre quel est un peu le profil des pays qui vont vers l'émergence. Et aucun pays qui va vers l'émergence n'a autant d'institutions que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut premièrement rationaliser les institutions et permettre donc une concentration des budgets qui peuvent apporter des résultats dans le cadre du développement. Donc, tout ce travail mérite d'être fait et on va effectivement donc annuler certaines institutions qui consomment des budgets et qui n'apportent pas effectivement ce plus-là que nous attendons dans le cadre de l'atteinte de nos objectifs de développement. Il faut qu'on sorte aujourd'hui des discours et qu'effectivement nous puissions faire ce qu'il y a de plus concret pour que nous voyons plus clair dans le développement de notre pays.
Albert Zé, merci à vous également d'avoir répondu présent à Regard Croisé ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
On va donc remettre l'antenne à Florence Mekeu pour la suite de dimanche midi. Bon dimanche à tous.
Merci Sardi Lawan et bon dimanche à tous vos deux invités. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du JDM, une présentation de Gilles-Claude Mbom Etoundi. Bon, et